Comme un lundi.
En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune, dit lune en occitan. Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Et bonjour à tous et à toutes, plavengut à l'écoute des radios Albitzes. C'est comme un lundi, nous sommes le 29 octobre 2018. Au programme de cette semaine, Arnaud vous propose de découvrir une facette pédagogique de Radio Albitzes via un entretien avec des formateurs d'éducation aux médias et à l'information. On entendra un extrait d'un magazine portrait de Philippe Kals, professeur d'Occitan à la retraite, qui sera diffusé cette semaine sur nos ondes dans le créneau du blog, un classique tendre et drôle de Radio Albitzes. On aura ensuite un extrait du magazine À toute arme de la semaine, dans lequel Paul vous proposera un entretien avec Magali Michaud du réseau des médiathèques de l'Albigeois. CFM Montauban nous proposera le portrait d'Azad Lab dans le cadre du portrait d'Occitanie en partenariat avec Lara et la région. Enfin, on tentera d'analyser la situation politique au Brésil qui a vu hier soir la victoire de l'extrême droite au poste de président avec Jair Bolsonaro. Mais on démarre comme d'habitude à musique avec un classique de Kali, C'est quand le bonheur. Pourquoi ce choix musical? Eh bien parce que j'en ai marre du bonheur moi, mais on en reparle après Kali.
Je suis pendu à vos lèvres, espérant le mot, espérant le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à faune qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous. Et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain. La petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sûr l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez. Je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabé. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Ce goût amer est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir son cœur, mais c'est louche. Car qui mieux que ses vieux amants sait qu'on perd l'amour au aussitôt qu'on le gagne. Décidément, c'est pas facile tous les jours. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur.
Et oui, c'est quand le bonheur, ben c'est tout le temps, c'est maintenant. Et puis si t'es pas content, c'est pareil, sois heureux et tais-toi. Voilà ce que semble nous dire la société, et ce d'autant plus qu'elle empire de jour en jour. Alors je voulais vous faire partager mon humeur désabusée du bonheur forcé en écrivant une petite chronique au vitriol sur cette injonction pesante à sourire à la vie qui te dit merde en retour. Mais en fait, quelqu'un avait déjà bossé sur le sujet pour moi, et comme c'est beaucoup plus ambitieux et clair que ce que j'aurais dit moi-même, ben je laisse parler Arjuna Andrade, c'était le 11 octobre dernier sur France Culture.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de bonheur.
Absolument, c'est même le sujet de l'ouvrage Apicratie, écrit par la sociologue Eva Illouz et le psychologue Edgar Cabana, dans lequel les deux chercheurs interrogent la place ambiguë qu'occupe le bonheur dans nos sociétés modernes. En réalité, c'est une version tout à fait réduite du bonheur qui est abordée dans cet ouvrage, celle élaborée au tournant du XXe siècle par les tenants américains de la psychologie positive, et postulant que pour atteindre ce sacro-saint bonheur, les personnes devraient effectuer un travail sur elles-mêmes afin de mieux se connaître et de mieux se corriger. Car c'est bien de cela qu'il est question, l'enjeu est de travailler sans cesse à une amélioration, à une maximisation même de notre potentiel pour atteindre une forme de béatitude sereine. En devenant une injonction sociale, la quête du bonheur devient aussi une source d'angoisse qu'il convient alors de combler, la poursuite du bonheur au carré en somme. Mais n'ayez crainte, vous n'êtes pas seul. Au-delà de cette joyeuse novlangue élaborée aux frontières du management et du développement personnel, vous pourrez trouver une foule de livres, de formations et autres applications numériques vous permettant d'atteindre ce bonheur perpétuel.
C'est d'ailleurs ce que les auteurs appellent les marchandises émotionnelles.
Oui, sorte de marchand du temple moderne ayant colonisé peu à peu les esprits et les librairies avec la promesse toujours renouvelée de nous rapprocher de nous-mêmes. Tous ces articles participent ainsi au travail de persuasion collective visant à nous convaincre que cette quête est la nôtre et que nous en priver serait nous condamner inéluctablement au malheur. Mais c'est surtout une source de consommation virtuellement infinie, car personne n'est jamais suffisamment sain ni suffisamment heureux. C'est donc une quête de soi à soi qui chaque jour se trouve nourrie d'un nouveau mantra, d'une nouvelle méthode ou d'un nouvel objectif à atteindre pour se trouver véritablement esprit sain dans un saint corps.
En témoignent les ventes phénoménales des livres dits de développement personnel, toujours dans les classements des livres les plus achetés, Arjuna.
Exactement, mais cette impossibilité psychologique du bonheur, pour citer Proust, est nourrie par ceux-là même qui prétendent nous fournir les clés du bien-être. Il aura fallu à peine plus d'une décennie pour nous convaincre que la valeur cardinale de notre existence tenait dans un sentiment empreint d'individualisme et de consumérisme vorace. Sous couvert de nous aider à mieux vivre, ces théories nous maintiennent en réalité dans une forme de servitude câline, joyeuse et volontaire. Mais au-delà de ces logiques assez classiques de suggestion et de persuasion du consommateur, l'avènement du bonheur et de sa quête effrénée a eu des incidences bien plus profondes dans notre manière d'être au monde. La recette du bonheur ne repose plus sur une tentative de changer le monde, mais sur une quête permanente de se changer soi-même, changer la manière dont on pense, dont on ressent, dont on se comporte au quotidien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les mantras de ces gourous du développement personnel sont des formules magiques appliquées de soi à soi. En intégrant le postulat que pour être heureux, il faut avant tout se changer soi-même, problème, on accepte en réalité de renoncer à changer le monde. Si mon bonheur ne tient qu'à moi et à moi seul, à quoi bon m'ancrer dans une logique de changement plus large? À quoi bon lutter contre les structures du capitalisme qui nous oppriment?
C'est d'ailleurs l'une des thèses centrales de l'ouvrage d'Illouz et Cabana.
Oui, les auteurs postulent clairement dans leur livre l'alliance objective de cette doctrine du bonheur et du néolibéralisme. En clair, plus les individus achèteront ces livres de développement personnel, et moins ils se soucieront de combattre les injustices du monde. Ils expliquent ainsi que les personnes se sentant impuissantes face aux aléas de l'économie se rassurent en se disant qu'ils peuvent retrouver prise sur leur vie grâce aux outils fournis par l'industrie du bonheur. Outils qui fournissent, selon les auteurs, un sentiment d'espoir, de puissance et de consolation. Un cocon de plénitude dans un monde mauvais où la dissolution de la lutte dans la perspective du bonheur individuel.
Et bien voilà, bien résumé mon humeur du moment. Le bonheur n'est ni dans le pré ni ailleurs s'il n'est pas collectif, s'il n'est pas le fruit d'une lutte et s'il n'est qu'un recours placebo pour ne pas faire face aux enjeux du monde. Merci donc à cette chronique d'Arjuna Andrade sur France Culture qui m'a mis du baume au cœur pour enfin pouvoir un peu chier sur le bonheur. Alors désormais, vous y réfléchirez à deux fois avant d'être heureux.
Comment allez-vous ?
Ma foi, comme un lundi, frais dans la matinée, soleil l'après-midi, la recette des sports d'hiver réussie.
Comme un lundi, sur Albitzes.
En ce mois d'octobre 2018, Radio Albitzes a eu le plaisir de suivre une formation intitulée « Éducation aux médias et à l'information, éducation citoyenne, réussir les synergies entre radio associative et services de l'éducation nationale ». On a eu le plaisir d'être en compagnie de deux des formateurs, Laure Méraville, bien le bonjour.
Bonjour.
Et Pierre-Étienne Vampouille, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter vos différentes fonctions, vos différentes casquettes, Laure ?
Oui, alors je suis journaliste et responsable du point information jeunesse de Radio Clapas, beaucoup dans des démarches de formation et avec des casquettes de militante associative, membre de conseil d'administration du Centre régional d'information jeunesse et du Club de la presse Occitanie, toujours sur un volet éducation aux médias.
Et Radio Clapas, c'est à Montpellier, on peut l'écouter aussi sur les ondes et sur Internet.
Voilà, 93.5 dans sa voiture ou chez soi vers Montpellier, sur Internet bien sûr, comme beaucoup de nos radios associatives maintenant.
Pierre-Étienne Vampouille, vos casquettes et vos différentes fonctions?
Alors bon, moi je suis formateur pour le syndicat national des radios libres en étant déjà président de Radio Temps Rodez, qui est une radio qui a été créée en milieu scolaire dans l'établissement que je dirigeais, puisque j'étais chef d'établissement d'un lycée professionnel et technologique, hein, donc ce qui permet de faire le pont entre les radios locales de proximité puis le monde de l'éducation.
Alors en quoi l'éducation aux médias et à l'information peut faire partie du parcours éducatif en milieu scolaire, Laurent?
Alors, à plusieurs occasions, déjà, le milieu scolaire, ça peut être en école primaire, au collège et au lycée. Le but du jeu pour nous, les radios associatives, c'est de s'inscrire dans des démarches pédagogiques en parlant le même langage que l'éducation nationale et en s'inscrivant soit dans le socle commun des activités à mettre en place et des contenus, des programmes. Et puis tout ce qui peut être l'éducation aux médias et à l'information, ça fait partie des thématiques importantes aujourd'hui. Et on y a, je pense, tout notre place.
Le premier enjeu, c'est celui de l'éducation, puisque même le ministère aujourd'hui encourage, bien au-delà des pratiques d'autrefois, à développer ce qu'on appelle l'éducation média à l'information. Bon, les jeunes aujourd'hui ne sont pas simplement des récepteurs d'informations comme autrefois, ils sont aussi des créateurs d'informations. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils podcastent, ils écoutent, ils visualisent, et il est de plus en plus urgent de développer leur esprit critique par rapport à des influences qu'ils peuvent subir, dont ils n'ont pas toujours conscience. Ça fait partie aujourd'hui de la formation. Et les radios associatives sont très très bien placées pour accompagner les établissements dans ces objectifs-là, qui sont devenus même prioritaires. Hein, un précédent ministre de l'Éducation demandant à chaque collège de développer un média, dont un média radiophonique qui a ses qualités particulières. Et donc, on forme aujourd'hui des intervenants dans les radios à bien connaître le système scolaire qui est en pleine évolution, hein, beaucoup de réformes, donc c'est un peu compliqué. Donc ils deviennent un peu des spécialistes de l'interface entre ces radios qui sont en France sur l'ensemble du territoire, hein, c'est un peu leur originalité, et puis les établissements scolaires. Ils sont proches et des partenariats peuvent se développer dans l'intérêt des établissements.
Moi, je voulais juste rajouter sur le fait qu'on est, nous, les radios associatives, des pros de la pédagogie radiophonique. Ça, c'est hyper important. D'ailleurs, l'éducation, ça fait partie de nos fameux critères. Nous, les radios associatives, on existe pour faire de la communication sociale de proximité. Et dans cette communication sociale de proximité, il y a des enjeux éducatifs. Et toutes les radios ne le font pas forcément de la même façon, ne déploient pas les mêmes moyens pour le faire. Et cette formation est l'occasion justement pour attirer l'attention sur des bénévoles, des salariés, des techniciens, des animateurs, des journalistes. Et voilà, travailler pourquoi pas ensemble et s'échanger des pratiques de projets.
Pierre-Étienne Vampouille, un mot à rajouter ?
Oui, c'est qu'il y a un autre intérêt aujourd'hui. L'école s'est rendue compte qu'il fallait aussi valoriser et travailler l'oralité. Hein, la réforme du lycée général, par exemple, prévoit une épreuve du bac, qui est le grand oral. Eh bien, si on laisse faire les choses aujourd'hui, ce grand oral renforcera l'inégalité sociale, parce que les jeunes qui sont déjà bénéficiaires d'un environnement culturel riche sont des communicants naturels, hein, et d'autres qui viennent de milieux plus défavorisés ne le sont pas. Donc l'activité radiophonique va permettre de mieux les préparer, hein, au collège aussi. Hein, aujourd'hui, on encourage à cette oralité, et nos pratiques pédagogiques, hein, professionnelles, permettent de sécuriser tout le monde dans ce domaine-là.
Merci. Donc n'hésitez pas à contacter vos radios locales, que vous soyez du côté de Montpellier, de Rodez, d'Albi ou de Toulouse. Il y a bien sûr forcément une radio locale à côté de chez vous, donc n'hésitez pas à les contacter. Laure Méraville, grand merci per tout à coup, comme on dit chez nous en occitan.
Merci.
Et Pierre-Étienne Vampouille, grand merci et al plaisir.
Merci, et puis bravo à votre radio de vous engager dans ce domaine-là.
Merci à Arnaud pour ce sujet. Participez à des projets d'éducation aux médias et à l'information via Radio Albigès, vous l'avez compris. Contactez-nous, radioalbigès@gmail.com ou 05 63 60 60 36. Restez branchés sur le créneau Action Jeune pour découvrir les émissions issues des ateliers pédagogiques le mercredi à 16h, le samedi matin à 8h et le dimanche à 16h30.
Pourquoi tu dis rien ? Tu fais la tronche ou quoi ?
Comme un lundi sur Radio Albitzès. Vous l'avez peut-être remarqué, le blog de Jacqueline est désormais diffusé tous les 15 jours sur nos ondes. Il partage désormais le créneau du mercredi matin à 11h et du jeudi matin à 8h avec des magazines sollicités par les auditeurs et auditrices, des rediffusions de classiques de votre radio. Cette semaine, c'est le portrait que Bérengère avait fait de Philippe Kals qui sera diffusé, extrait.
Mais bon, c'était surtout toujours autour de la bonne humeur. De la bonne humeur, des traditions.
C'est ça.
Et de l'amour du pays. Je pense que c'était ça la base des cours de Philippe. C'est ce qu'il nous a fait. Mais...
En fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est avoir plusieurs générations. Et comme après, il est assez connu, donc c'était facile après de parler avec les générations précédentes qu'il avait eues. Et c'est vrai qu'il y avait vite un lien.
C'est plus facile parfois même d'exprimer. Ces sentiments, bon, j'ai pas de phrases qui me viennent à l'idée comme ça, mais je trouve qu'il y a plus de mots parfois en occitan qui me reviennent à la tête parce que c'est imagé par rapport au français qui est très normalisé, voilà, parce que c'est notre langue de tous les jours. Mais comme l'occitan, il y a plein de dialectes différents, un Gus du Béarn, il voudra peut-être dire une chose, un homme du Languedoc ou un homme de Provence, la même chose, mais avec d'autres mots. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. C'est l'occitan.
Par rapport à Philippe, c'est que ben, c'est quelqu'un qui, c'est, pour lui, c'est pas un métier, c'est une passion. Quoi. C'est ça qui, je pense, a fait que qu'on a voulu tenter le cours d'occitan et qu'on y est resté. Parce que franchement, c'était pas des heures à rester à copier sur une feuille, c'était on dansait, on chantait, on faisait des sorties, on faisait c'était plein de choses comme ça, quoi.
Si tous les profs d'occitan étaient comme Philippe Cals, tous les lycéens du département parlent occitan.
C'est pas facile hein, d'être femme d'un prof d'occitan. Parce que, après ce qu'il y a des oreilles, quand il y aura des oreilles moins sensibles, je vous dirai ce qu'est la bide de nos padènes. Mais la bide d'une professeur d'occitan, c'est pas compliqué parce que je suis souvent à la maison en fait. Je travaille un peu, je reviens, je travaille un peu, je repars, je reviens. Donc finalement, on a vécu, elle est à la retraite, mais j'étais toujours là quand même. Donc ça va pas changer. Voilà. Donc, si elle plat Bengut, vous serez merci tout plat de ces Bengut. Alors, je vous propose pour continuer, on va se passer à côté. Et après, on fera, pour profiter quand même des talents qui sont parmi nous, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment du talent parmi nous aussi. On passera ici, on reviendra ici pour chanter, pour danser, mais on pourra chanter aussi à côté. Et pour écouter aussi de la musique, pour écouter des chansons, pour écouter un peu de tout, cantar en occitan, mais tabé français, anglais, toute la langue du monde. Il y a un philosophe, on va terminer, on va citer un écrivain Goethe qui disait « On est autant de fois homme que l'on parle de langue. » Et qui c'est quelque chose d'important. « Si un tant de corps homme qui parlent des langues. » Donc, on parle de toute la langue du monde et un peu d'occitan quand même. Allez, merci plein, bravo, et de bon appétit. Le refrain il fait mare montagno, bile in campagno. Je te chante à le son.
Quelqu'un, tu peux pas lui tenir le micro.
Mare montagno, bile in campagno, entre l'Espagne et l'Italie, est un pays.
Paradis,
où
c'est dit,
ça arrive pas.
Allez,
Sienne,
on y va.
Magrado lui, l'île de Dio, Magrado lui, la vie, la belle amare, tout est dit, Dio, c'est des
choses
qui se sont mis en place. C'est le magrado, c'est le pas, jusqu'à le pied des caramans, nous verrons les gros. Mille campagne, entre l'Espagne et l'Italie, est un pays, un paradis.
C'était une des premières, la première par ici, quoi, de manifestation. Anem hoc per la lingua occitane, et on était tous partis. Donc il y avait plusieurs. On était en terminale, et puis il y avait les premières et les secondes. Et c'est vrai que c'était génial. Bon, c'était notre première manif, puis c'était vraiment c'était une grande manif dans le cadre de la cité de Carcassonne. Quoi, et voilà, et un élan commun, c'était génial, quoi, franchement.
Il y avait même des Bretons.
C'était génial. Il y avait des Bretons, il y avait des. Ouais. C'était vraiment très solidaire, c'était génial comme expérience, quoi. C'était que du positif et c'était vraiment dans un esprit positif d'essayer de montrer que l'Occitan, c'était pas que dans les chaumières.
Et il avait rempli le bus, Philippe. Et
oui,
c'était ça aussi, il est arrivé à bien nous expliquer. Ah ouais. Et nous, quand on partait à ces manifestations, on se sentait comme lui, on était fiers de le suivre et on savait vraiment pourquoi on était là.
Philippe Cals, un professeur d'occitan part en retraite, c'est à écouter ou à réécouter ce mercredi à 11h sur nos ondes et ce jeudi matin à 8h. Rediffusion en alternance donc chaque semaine avec le blog de Jacqueline. Wow, c'est comme un lundi sur Radio Albitzès.
C'est lundi, ouais, les midi, mes parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler.
Depuis le 8 octobre dernier et jusqu'au 5 janvier 2019, vous pourrez aller visiter à Albi une exposition consacrée à l'artiste Man Ray. Trois lieux culturels albigeois accueillent donc cette exposition. Pour commencer, la médiathèque Pierre Amalric, la scène nationale d'Albi et également le musée Toulouse-Lautrec. Alors pour présenter l'artiste, Man Ray est un photographe surréaliste qui est très connu des deux côtés de l'Atlantique. Il occupe une place prépondérante dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Certaines de ses photographies sont devenues emblématiques et incontournables. C'est un peu un précurseur dans l'art photographique puisqu'il fut un des premiers à utiliser cette technique non pas comme seulement un simple moyen de reproduire la réalité, mais vraiment comme un véritable média de création à part entière. Alors son travail n'est pas centré uniquement autour de la photographie, il est aussi peintre, dessinateur, cinéaste et créateur d'objets. Il a participé à de nombreux mouvements dits d'avant-garde comme les dadaïstes puis les surréalistes, même s'il a toujours refusé la catégorisation et l'étiquetage de son art. Radio Albigès était présent lors du vernissage de cette exposition, présentée notamment par Stéphanie Guiraud-Chomeil, la maire d'Albi, Danielle Devinck, conservatrice en chef du musée Toulouse-Lautrec, et Martine Legrand, directrice de la scène nationale d'Albi, mais également Pierre-Yves Butzbach, qui est le commissaire de cette exposition. Nous reviendrons plus longuement sur cette exposition au cours de notre magazine À tout Tarn qui sera diffusé ce vendredi à midi 18h et le lendemain le samedi à 8h30. Et pour vous donner un petit avant-goût, nous vous proposons d'écouter Magali Michaud, directrice adjointe du réseau des médiathèques de l'Albigeois en charge de la politique culturelle. Nous sommes donc avec Magali Michaud, ici à la médiathèque Pierre Amalric d'Albi pour le vernissage de l'exposition consacrée à Man Ray. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ça a été quoi un petit peu votre rôle dans cette exposition? Apparemment ça s'est décidé un petit peu sur un coin de table, comme vous avez dit.
C'est ça. Donc moi je suis directrice adjointe du réseau des médiathèques de l'Albigeois en charge de la politique culturelle. Donc j'ai rencontré Pierre-Yves Butzbach il y a quelques années. Il m'a parlé de son rôle très important autour de l'œuvre de Man Ray, puisqu'il a l'exclusivité des droits de reproduction de l'œuvre photographique et il gère aussi la photothèque Man Ray. Et en fait, en discutant, lui cherchait un lieu d'exposition. Nous, on est toujours à l'affût de projets un peu phares pour mettre en valeur l'agglomération de Grand Albigeois, le territoire albigeois et les médiathèques. Donc ben voilà, c'était une rencontre qui a abouti à ce projet. Et donc mon rôle, ça a été de faire la coordination donc, entre les trois pôles culturels qui se sont associés autour de ce projet, donc le réseau des médiathèques de l'Albigeois, la scène nationale et le musée Toulouse-Lautrec. Faire la coordination aussi avec le commissaire d'exposition, donc Pierre-Yves Butzbach, la supervision de tous les aspects matériels aussi de l'expo, puisque donc on a acheté du matériel d'exposition spécialement, tout l'encadrement des œuvres, la reproduction des œuvres, le suivi du budget, le suivi des moyens humains aussi à mettre dessus, etc. Voilà, donc c'est plus un rôle technique et Pierre-Yves avait plus un rôle de supervision intellectuelle, on va dire, du projet.
Et c'est quoi un peu la jeunesse du coup depuis cette rencontre jusqu'à aujourd'hui?
D'abord ça a été proposer le projet à l'agglomération, à ma directrice Jocelyne Deschaux, le budgétiser, essayer d'envisager tous les aspects matériels, techniques, personnels, etc. Envisager sa dimension, voilà. Et puis après, une fois que tout ça a été cadré, si je puis dire, validé par nos élus, on y est allé. Donc en gros, on y travaille depuis une grosse année, on va dire.
Mais merci beaucoup à vous. Est-ce que peut-être on aura la chance de voir aussi quelques œuvres dans d'autres médiathèques du réseau de l'Albigeois ou c'est que sur Pierre Amalric?
Alors non, l'exposition restera sur Pierre Amalric les 3 mois pour des raisons de conditions d'exposition, de sécurité des œuvres. Par contre, je tiens à souligner l'implication des autres collègues du réseau des médiathèques, puisqu'ils ont tous proposé des actions dans le cadre de Ceci n'est pas une saison, donc il fait référence au tableau de Magritte, voilà. Ceci n'est pas une pipe. Et donc, ils ont tous proposé des actions pour mettre en valeur le surréalisme, faire mieux connaître le surréalisme pour différents publics. Leur rôle est quand même très important dans la constitution de la saison qui s'est étoffée autour du projet Man Ray.
Magali Michaud, au micro de Radio Albigès, directrice adjointe du réseau des médiathèques de l'Albigeois en charge de la politique culturelle, à propos de l'exposition Man Ray, vue de l'esprit, que vous pouvez donc retrouver jusqu'au 5 janvier 2019.
Elle est divisée en trois parties, donc une partie à la médiathèque Pierre Amalric, une partie à la scène nationale d'Albi et une autre au musée Toulouse-Lautrec. Plusieurs ateliers et animations sont proposés autour de cette exposition, notamment un apéro-causerie animé par Pierre-Yves Butzbach, commissaire de l'exposition, qui aura lieu donc le vendredi 16 novembre à 19h30 dans l'auditorium de la médiathèque Pierre Amalric. On vous propose également deux visites commentées par semaine à la médiathèque Pierre Amalric et puis également des ateliers d'art surréaliste à destination des adultes. Pour finir, une conférence sur le surréalisme et peinture, la métamorphose du réel, animée par Anne Nier, conférencière en histoire de l'art. Cette conférence sera donc le samedi 10 novembre à 17h30 dans l'auditorium de la médiathèque Pierre Amalric. Retrouvez toutes ces informations sur le site internet du réseau des médiathèques de l'Albigeois et puis on vous donne rendez-vous sur les ondes de Radio Albigès pour un magazine à tout arne consacré à cette exposition. Vous entendrez notamment les prises de parole qui ont eu lieu lors du vernissage et puis quelques extraits audio de la visite guidée par Pierre-Yves Butzbach, le commissaire de l'exposition. Rendez-vous donc sur nos ondes ce vendredi à midi à 18h et le lendemain samedi à 8h30 dans votre magazine à tout arne que vous pourrez retrouver en podcast également, comme tous nos autres magazines, sur notre site internet www.radioalbiges.com.
Allez, allez, on arrête un petit peu de faire la tête. C'est comme un lundi sur Radio Albitzis.
Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. »
Comme depuis quelques semaines dans Comme un lundi, nous vous proposons des portraits de citoyens d'Occitanie en partenariat avec l'ARA, Assemblée régionale des radios associatives dont Radio Albigès est membre, et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Aujourd'hui, c'est au tour de CFM Montauban de vous proposer le portrait d'Azadlab.
Azad, ça veut dire libre. C'est un mot arménien. Lab, c'est pour le laboratoire. Azadlab, c'est un groupe d'Occitanie qui explore l'univers du hip-hop, du jazz, de l'électro, un groupe qui évolue au gré des hommes et des femmes qu'il compose. Cette année, le collectif de 7 personnes a travaillé sur son nouveau spectacle, Cosmogonie, lors de deux résidences, l'une à Castres, au Bolégason, et l'autre au Rio Grande, à Montauban. C'est là que nous les rencontrons.
Jonathan, je suis le guitariste d'Azadlab. Le projet Azadlab, c'est un projet qui a une dimension qui n'est pas que musicale. Azadlab a quand même une création visuelle qui est très importante.
Je suis en train de caler la vidéo.
Ouais.
Du coup, en fait, on projette des images à travers ce hublot. Et moi, j'ai préparé des fichiers. Et en fait, je suis en train de recaler pour que, avec les réglages du VP, plus tous mes fichiers, ça concorde, les images apparaissent vraiment dans le hublot.
Il y a des milliers de gens qui travaillent dur pour accueillir notre art et la France estivale su jusqu'à tard. Est-ce qu'on le mérite ?
Alors moi je suis Romaric, je joue du saxophone et je fais aussi des machines. Pour l'instant là on est en train de vérifier tout ce que j'envoie en termes de son et en termes de texture pour gérer l'équilibre par rapport à la batterie, à la guitare et aux voix. D'accord. Pour savoir où creuser, où gonfler, pour avoir un son bien, ouais, bien équilibré. Ouais. On a toujours eu ce défi de mélanger l'acoustique, tout ce qui est un peu de l'organique, avec l'électronique et l'électrique. Et arriver à mélanger ces deux choses sans jamais plonger dans un des deux travers qu'on pourrait avoir assez facilement, ça demande énormément de temps de préparation et d'écoute et de retour et de travail. Quoi.
Moi je fais de la batterie, je m'appelle Nicolas Cavello. J'aime bien le fait de pimper ma batterie, en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment, j'ai des triggers, c'est des déclencheurs sur. Donc j'ai mon son, par exemple dans ma grosse caisse, j'ai mon son de grosse caisse acoustique normal. Puis j'ai un son analogique qui va numérique, tu vois, qui va coller en fait au son pour vraiment le gonfler, pour mettre des infrabasses, tout ça, pour que ça colle au style. Quoi.
Maxime.
Qu'est-ce que tu fais dans le groupe ?
Technicien son.
Ouais.
Voilà, depuis 5 ans.
groupe compliqué à mettre en son ou pas ?
Ouais, il y a plein d'éléments. Ouais. Là, sur cette formation, maintenant, il y a une batterie, donc c'est un gros mélange d'instruments acoustiques. Là, ce qu'on travaille, tout le côté machine qu'on appelle, toutes les parties électroniques en fait produites par ordinateur. Donc le mélange de tout ça, c'est un peu compliqué. Ouais.
Azad Lab est une bête sauvage, à base de cellules chimériques, un corps pour plusieurs visages, animé par un esprit beatnik.
Moi c'est Clovis, je suis chanteur donc sur le groupe. Donc là on est en résidence au Rio Grande parce que c'est une nouvelle formation pour Azad Lab, une toute nouvelle équipe. Alors le projet s'appelle Cosmogonie. Notre idée c'est d'essayer de créer un peu de nouveaux imaginaires autour du spatial et d'essayer de mettre cette position de l'astronaute qui observe la Terre en lien avec les terriens qui observent les étoiles. Un peu une sorte de champ contre champ, quoi.
Alors donc moi je suis la chanteuse d'Azad Lab et je joue aussi des parties de clavier. Voilà, donc j'assure le lead en parallèle avec Clovis. Donc Azad Lab, c'est un groupe qui a une histoire, qui a brassé beaucoup d'influences et qui continue d'embrasser. C'est-à-dire qu'en fait, on a un petit peu pour objectif de créer une musique unique et originale. Et ça a toujours été, je pense, le fil conducteur des différentes formations qu'a connu le groupe depuis le début de son existence. Et voilà, on continue un petit peu dans cette lignée-là. Et en changeant un petit peu d'influence, c'est-à-dire qu'on n'a plus trop de dub, plus trop de klezmer comme avant, plus trop de swing électro. Maintenant, on a plus de musique électronique, beaucoup d'hip-hop. Hein. Voilà. Mais le but étant toujours de créer un mix d'influences originales qui nous ressemble.
Jonathan à la guitare, Romaric au saxo et aux machines, Nicolas à la batterie, Clovis et Tania au chant, Léa aux images, Maxime au son. C'est Azad Lab en 2018. Ils sont sur la tournée Cosmogonie.
Ce portrait de citoyen d'Occitanie a été réalisé par CFM Radio Montauban dans le cadre du partenariat entre l'Assemblée régionale des radios associatives et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Plus d'infos sur le groupe sur www.azadlab.com.
Vous écoutez Comme un lundi sur Radio Albitzès.
Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Hier, dimanche 28 octobre 2018, des électeurs et électrices brésiliens ont élu Jair Bolsonaro, candidat libéral et d'extrême droite, qui a fait campagne sur l'anticorruption et pour un Brésil fort, sécuritaire, lavé de sa criminalité et de ses péchés, puisqu'il invoque facilement Dieu dans ses discours. Pour tenter d'analyser un peu la situation politique au Brésil, nous vous proposons d'entendre un extrait de l'émission « Là-bas si j'y suis » avec un reportage de Keylord Van Wimersch datant du mercredi 24 octobre dernier intitulé « Brésil, la dictature néolibérale est possible ».
Podem me prender, podem me bater.
Contre le communisme.
Contre le communisme.
Pour notre liberté.
Pour notre liberté.
À la mémoire du colonel Carlos Alberto Brillante Oustra.
À la mémoire du colonel Carlos Alberto Brillante Oustra, la terreur de Dilma Rousseff. Pour nos forces armées.
Acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim.
Pour un Brésil au-dessus de tout et Dieu au-dessus de tous, je vote oui.
Vous avez bien entendu ? Avez-vous bien entendu ce qui vient d'être dit ? Imaginons nous-mêmes alors la même chose ici en France. Imaginons un député d'opposition d'extrême droite, jusqu'ici ça va, on voit à peu près. Imaginons aussi que notre président de la République soit une présidente. Allez, faites un peu preuve d'imagination, voilà, vous l'avez. Songeons alors que cette présidente ait été torturée, ou même tiens, violée, à cause d'activités militantes dans sa jeunesse, à 23 ans, disons. Figurons-nous maintenant qu'en pleine Assemblée nationale, dans l'hémicycle du Palais Bourbon, alors qu'une procédure de destitution a été engagée contre cette présidente, quelles qu'en soient les raisons d'ailleurs, le député d'extrême droite en question dédie son vote de destitution au bourreau, tortionnaire ou violeur de notre présidente de la République. Cela semble irréaliste. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé au Brésil, ce que vous venez d'entendre, il n'y a pas si longtemps, c'était en avril 2016, par un certain Jair Bolsonaro. On retrouve tout de suite Maud Chirio, chercheuse et spécialiste de la dictature militaire au Brésil. Est-ce qu'on peut aussi voir dans sa possible élection une sorte de revanche de la société blanche brésilienne post-esclavagiste? Est-ce qu'il y a ça en germe ?
Bien sûr, il y a toute une partie de la bourgeoisie brésilienne qui avait toujours été à une distance sociale du reste de la population extrêmement importante, et ce depuis l'esclavage, et en particulier une bourgeoisie blanche très à distance de la masse de la population pauvre et noire, qui n'a jamais complètement accepté les mesures d'inclusion sociale des gouvernements du PT, qui n'a jamais vraiment accepté les quotas à l'université, et le fait que leurs enfants fassent leur scolarité universitaire dans des universités publiques qui sont les meilleures du pays, mais qui se sont mis à accepter un certain nombre d'élèves issus des écoles secondaires publiques et donc souvent noirs et pauvres, qui n'ont jamais accepté que l'augmentation du niveau de vie des classes populaires leur permette une fois par an de prendre l'avion. L'expression connue étant les aéroports sont devenus des gares routières. Les gens qui prenaient le bus avant pour voir leur famille une fois par an dans le nord, souvent hein, c'est des gens qui viennent du nord-est ou du nord et qui habitent à Saint-Paul ou dans le sud, qui vont une fois par an voir leur famille et qui y allaient en bus et qui là avaient l'argent une fois par an pour prendre l'avion. Ou encore le fait que les employés de maison, hein, le Brésil est un pays qui emploie les plus grands nombres du monde en rapport à la population d'employés de maison. Il y a 8 millions d'employés de maison au Brésil qui étaient en dehors du droit du travail en fait, avant les mesures de Dilma Rousseff, hein, pas de Lula, et qui ont été intégrés dans le droit du travail, donc qui ont eu un temps maximal de travail, qui ont eu à compter leurs heures, ce qui en fait qu'elles sont devenues plus chères à employer, puisque le fait qu'elles habitent à la maison nuit et jour, et ben ça devait être compté, et il a fallu que les familles très riches en emploient plusieurs, parce qu'elles n'avaient pas le droit d'en employer pour 150 heures par semaine.
Ça c'est la réforme de Dilma Rousseff qui fait passer dans le travail formel des gens qui jusque-là étaient des employés de maison qui travaillaient de manière informelle. On parle de 7 à 8 millions de personnes au Brésil, comme vous le disiez.
À partir du moment où on est un bourgeois au Brésil, on a une bonne, hein, en fait. On n'élève pas vraiment ses enfants tout seul, on ne fait pas la cuisine et on ne nettoie pas ses toilettes. Hein. On a quelqu'un qui habite à la maison. Encore aujourd'hui, tous les nouveaux appartements construits dans les quartiers aisés ont leur partie qui est réservée à l'empregada, ça veut dire à la bonne, la petite chambre, la petite salle de bain, toujours minuscule, toujours juste à côté de l'endroit où on lave le linge et de la cuisine. Et ça, c'est vraiment un héritage de l'esclavage. Et c'est quelque chose qui était considéré comme structurel dans la société brésilienne par les catégories dominantes et qui a été écorné, légèrement écorné par les gouvernements du PT et qui n'a pas été accepté par des catégories qui veulent à tout prix réimposer un ordre, pas simplement un ordre sécuritaire, mais un ordre social.
C'est ça, j'allais dire, ça confine, il faut le comprendre, non pas avec des yeux d'Européens, mais ça confirme un racisme de classe de la société blanche, bourgeoise, dominante au Brésil vis-à-vis de minorités qui, sous le lulisme, sous Lula puis Dilma Rousseff, avaient accédé à de nouveaux droits ou à un statut social un petit peu moins déprécié.
Oui, et Bolsonaro lui-même a une manière de parler. Il s'enorgueillit d'être blanc, il s'enorgueillit d'avoir les yeux verts, ce qui est quelque chose de très rare au Brésil. Il revendique le fait de peu avoir été métissé, parce que ses yeux verts en seraient la trace. Il utilise en fait des déclarations racistes pour être comprise comme raciste par un électorat raciste. Quand, il y a quelques mois, il est sorti d'une visite d'un quilombo, c'est-à-dire une communauté noire. Il parlait face à une assemblée du Grand Orient, de Brasilia, et il a utilisé ces mots. J'ai été voir cette communauté. Le plus maigre des hommes là pesait, et il a utilisé un poids pour peser le bétail. Même pour la reproduction, ils ne servent plus à rien. Il faut faire quelque chose.
Je suis allé dans un quilombola, dans une communauté, vous savez, d'afro-descendants. L'afro-descendant le plus léger pesait pas moins de 80 kilos. Ils ne font rien. Même pour se reproduire, ils ne servent plus à rien.
Donc c'est vraiment, au-delà de ce qu'ils pensent, il parle comme ça pour faire comprendre à son électorat, là, qui était constitué d'hommes blancs sans aucune exception, mais que des blancs dans la salle, que c'est cet ordre racial-là qui va contribuer à rétablir ou renforcer.
Merci à Gaylord Van Vimersch et Jonathan Duong de l'émission Là-bas si j'y suis, dont le reportage complet est à retrouver sur le site la-ba.org, à lire aussi sur le sujet un article de l'intellectuel américain Noam Chomsky, traduit en français sur ce même site internet, un article où Noam Chomsky raconte sa rencontre en septembre dernier avec l'ex-président Lula, prisonnier politique. Ça c'est pas sûr du tout hein. En tout cas c'est toujours l'émission Comme un lundi sur Radio Albitzès, l'hebdo avec tout ce qu'il faut. Quel pessimiste ce Clo-Clo, je te jure. Comme lundi de ce 29 octobre 2018, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain. Vous avez adoré ou détesté, écrivez-nous Radio Albigès, tout attaché, @gmail.com ou par téléphone 05 63 60 60 36. Cette émission est rediffusée le lundi soir à 18h et téléchargeable en podcast sur notre site internet www.radioalbigès.com. Restez branchés sur les ondes de Radio Albigès toute la semaine. Restez au chaud. Tout de suite, le proverbe du jour avec du Sategui. Et l'agenda, Alicias.
C'est le 29 octobre, festant la Saint-Narcisse, tel son Kawaii.
Le 29 octobre 1883, la section de la voie de chemin de fer Mazamet-Saint-Amansult était ouverte à l'exploitation. C'était le premier tronçon de la voie Mazamet-Bédarieux. la ligne Castres-Castelnaudary fonctionnait depuis 1866. Elle permettait d'aller rejoindre l'importante voie ferrée Bordeaux-Sète. Mais cette desserte, trop indirecte, donc coûteuse, ne satisfaisait pas les industriels du sud du Tarn. L'industrie du textile et du délainage avait besoin d'une voie ferrée rapide franchissant la montagne Noire pour être en relation avec le bas Languedoc, car c'est par les ports de Sète et de Marseille qu'arrivaient les matières premières, notamment les peaux. La deuxième section de la ligne, c'est-à-dire Saint-Amansoult-Saint-Pons, ouvrit en 1888. Cette liaison ferroviaire entre Mazamet et le Midi allait accentuer l'essor industriel du textile et du cuir dans notre département à la fin du XIXe siècle et au début du XXe.
Un copero se disio, quand la mustello traverse le camin, la plezzo est pel camin.
Quand la belette traverse le chemin, la pluie est en chemin.
Quand la mustello traverse le camin, la plezzo est pel camin.
Tout de suite, votre agenda sur Radio Albigès.
Avec le Tarn Info Citoyen. Ce mercredi 31 octobre, la médiathèque de Cantepou vous propose une séance de cinéma Cinémioche, gratuite pour les petits. Rendez-vous dès 16h pour la projection du film Desmond et la créature des marais de Magnus Carlson. Un film d'animation d'une heure et quart pour les enfants à partir de 4 ans. Ces séances sont gratuites et ouvertes à tous. C'est mercredi, c'est Halloween. De nombreuses animations sont organisées dans le département et notamment à Albi, du côté de la ludothèque Lamarelle. On vous propose un après-midi de jeux, maquillage, dégustation de bonbons et autres animations monstrueuses, mais pas trop. C'est pour les petits et les grands de la ludothèque Lamarelle, rue de la Violette à Albi. Vous pouvez vous inscrire en contactant la ludothèque au 05 63 54 90 85. Ce mercredi 31 octobre, dans le cadre du festival Art et Tango, on vous propose une soirée consacrée au folklore argentin avec le Quartetto Tafi. Retrouvez toutes les informations sur le festival Art et Tango sur le site artetango-festival.com. Ce mercredi 31 octobre à 16h30 à la maison du 6-6 quai Tour des Rondes à Lavore, on vous propose des contes pour enfants, le torticolis de la lune. Conte de la lune accompagné de quelques notes d'accordéon pour petits et grands et surtout en direction des enfants de primaire. Ça dure environ 45 minutes, l'entrée est libre. Du jeudi 1er au samedi 3 novembre, c'est les primeurs à Castres. Et non, ce n'est pas la fête du vin, mais un festival de musique qui programme des artistes émergents. Tous les artistes de ce festival viennent de sortir leur premier album et viendront sur la scène du Bolégason à Castres pour les présenter. Vous pouvez apprécier une quinzaine d'artistes, dont des groupes bien connus sur les ondes de Radio Albigès, comme Pogo, Karch Karch, Control, Inuit, mais aussi Dani Terreur ou bien Clara Luciani. Rendez-vous du 1er au 3 novembre à Castres au Bolégason pour les primeurs de Castres. Ce jeudi 1er novembre, dès 10h du matin à Vaour, c'est brocante gratuite, troc de plantes et marché d'automne sur la place de l'église de Vaour. En cas d'intempérie, un repli est prévu dans une salle municipale. Venez nombreux. Midi-Pyrénées Prévention et la Caisse des Retraites, en partenariat avec l'association Famille Rurale de Valence d'Albi, proposent des ateliers de prévention Vitalité. Cet atelier collectif et convivial animé par une diététicienne est destiné aux seniors à la retraite. C'est un programme complet qui prend en compte toutes les composantes du bien vieillir, la préservation du capital santé, l'activité physique et l'équilibre, la nutrition, le bien-être, la mémoire, etc. Les séances se tiendront tous les lundis de 14h à 16h30 à partir du 5 novembre et jusqu'au 10 décembre dans les locaux de Famille Rurale au pôle d'activité Val 81, 45 avenue Pierre Souiris, à Valence d'Albigeois. Le tarif est de 36€ pour les 6 séances. Inscription au 05 63 53 48 67. 05 63 53 48 67. C'est la bourse aux livres du Secours Populaire Français d'Albi. C'est vendredi 2 et samedi 3 novembre de 9h à 17h à la salle des fêtes de Saliès.
C'était l'agenda de Radio Albigès.